Eh bien, mes amis, pour ne pas avoir à y revenir et pour ne pas l'oublier, parce que ça peut m'arriver, hier j'avais oublié de vous apporter les pamphlets là, du camp familial 87, qui est organisé par l'Assemblée chrétienne La Mater, qui veut dire Laval, Mat, Couche, Terrebonne. C'est leur abréviation, mais c'est le camp avec Josapha et Françoise Ferland. Et moi-même pour les messages. Alors Françoise m'en a donné, si vous en voulez encore, il y en a là. Puis elle m'a dit que, enfin, tous les amis de Hall qui pourraient venir seraient absolument les bienvenus. Il faudrait mettre la matière Hall. Non, mais ils ont gardé un tellement heureux souvenir, et moi de même aussi, de votre collaboration quand vous êtes venu à ce camp familial. Et vous savez que je l'ai très à cœur. C'est du reste, si on ne fait pas le camp Manaïm cette année, puisque c'est une année de relâche que nous avons décidé, je fais quand même ce camp familial. Parce que, moi, depuis des années, mais le Seigneur m'avait fait comprendre l'importance d'enseigner les enfants, pas seulement les grands ou les adultes, mais les petits-enfants. Oui. C'est toujours une grande joie pour moi de pouvoir m'adresser aux petits-enfants. Ils m'enseignent beaucoup. Et Jésus disait, laissez venir à moi les petits-enfants. Puis, je dois dire tout de suite que, vous savez, moi, ça ne me gêne pas même de voir longer un petit gosse, un petit bébé sous mes yeux. Ça ne me gêne absolument pas. Je continuerai la réunion tranquillement. J'ai vu se faire ça au camp Jolibé, une maman qui voulait rien perdre, eh bien, elle changeait les couches de son enfant sur la table à côté de moi, et puis moi je continuais de parler aux gens. Alors il ne faut pas que des mamans se privent en pensant « Oh, ça sera ennuyant pour le prédicateur ou pour quoi que ce soit ». Non. D'abord, je ne suis pas plus que le Seigneur. Et si le Seigneur les a aimés, eh bien moi j'ai aussi à les aimer de l'amour du Seigneur. Il ne faut pas penser que les enfants nous dérangent. C'est les disciples qui disent ça. Hein. Renvoient les enfants et reprennent les parents. Les disciples sont des gens impatients et nous sommes impatients. Alors que pourtant, c'est par les enfants, les petits-enfants, la bouche de ceux qui sont encore au sein, que Dieu a établi sa force. Ça, c'est dans le psaume 8. Hein. Et j'ai souvent pensé que, au fond, toute cette histoire qu'on voit cette vague d'avortement, c'est une puissance diabolique qui voudrait plus qu'il y ait des enfants, parce que la force de Dieu, elle est où? C'est les petits-enfants. C'est les petits-enfants qui louent encore le Seigneur. Nous n'y comprenons rien, hein, il parle en langue. Bon. Mais le Seigneur, lui, il entend ce gazouillement des enfants, et c'est une louange pour eux. Et puis, comme nous parlons des arbres, eh bien, vous verrez que les enfants ont leur place dans l'Écriture. Alors, mes amis, je me suis tenu aussi devant le Seigneur cette nuit pour savoir comment continuer. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je dirais que, en pensant à cette fin de semaine ici, j'ai demandé à Dieu un message, ne sachant pas. Enfin, c'est quelques personnes qui sont ici, mais ceux qui seraient là, je ne sais pas quels sont leurs besoins. Alors, il m'a montré que je devais parler sur les arbres. J'étais un petit peu étonné. Et puis, comme je le disais hier soir, le Seigneur m'a dit, mais c'est moi qui crée les arbres. Et si tu y penses, depuis la première page de la Bible jusqu'à la dernière, il est parlé des arbres. Hein. Le Créateur des arbres. Et il fait toutes choses bien. Nous avons vu qu'il avait fait les arbres là, dans la Genèse, des arbres agréables à voir. Alors, est-ce que nous les avons déjà regardés? Est-ce que c'est agréable pour nous de voir un arbre? Est-ce qu'on s'arrête pour le contempler? Et puis, bon à manger le fruit que l'arbre doit produire, que tel que Dieu l'a fait, il doit être bon à manger. Donc, agréable à la vue et aussi bon à manger. Et puis nous avons vu aussi qu'un grand sage, Salomon, qui avait reçu des grâces toutes particulières de la part de Dieu, le roi Salomon, il a parlé des arbres. Et je disais hier, il n'a pas seulement parlé des arbres, mais il a planté des jardins. Et il a mis dans ses jardins toutes sortes d'arbres, agréables et ayant de bons fruits, comme on l'a vu dans l'Ecclésiaste. Mais nous arrivions tout de suite au Nouveau Testament en vous disant qu'un plus grand que Salomon avait aussi parlé des arbres, et ce plus grand que Salomon, c'est Jésus lui-même. Et il nous donne beaucoup de leçons au sujet des arbres. Je ne vais pas me répéter, mais je dis ça simplement pour vous montrer que c'est un sujet très important dans l'Écriture. Et je lirai simplement un texte dans Job, au chapitre 33e, une parole qu'Élieu dit à Job, parce que Job avait dit à ses amis, interrogez les bêtes, elles vous instruiront. Ce qui nous montre que Dieu nous enseigne par les bêtes, hein, par les animaux. Dieu nous parle par les animaux. Mais ce que je comprends aussi, c'est que Dieu nous parle par le règne végétal. Il nous parle aussi par les arbres. Et dans le chapitre 33 de Job, c'est Élihu qui parle à Job et qui lui dit ceci, verset 14, « Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. » Dieu parle une fois, deux fois, et l'on n'y prend pas garde. Est-ce que vous avez déjà pensé que les arbres sont des prédicateurs? Ils ne se déplacent pas, mais enfin, là où ils sont, ils nous disent quelque chose. Les arbres nous parlent. Et puis, je pourrais m'allonger là-dessus en vous citant d'autres versets des psaumes où il est dit qu'ils battent des mains, hein, comme... Et il y a le frissonnement, vous avez déjà entendu, la musique des arbres dans la forêt quand il y a le vent, n'est-ce pas? Ce frissonnement, j'aime entendre la musique que font les arbres quand la brise souffle et qu'on est dans la forêt, on entend un son. Et il est dit qu'ils éclatent de joie. Des arbres qui éclatent de joie. Quand vous voyez un arbre en fleurs, mais vous n'éclatez pas vous aussi de joie. Il nous parle de la beauté de Dieu, de sa grandeur. Oui, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pas simplement par des prédicateurs. Maintenant qu'on est dans le monde du 666, vous aurez bientôt des prédicateurs robots. Hein. Alors, ça sera très intéressant. Hein. Il y a le robot qui vous évangélisera. Hein. Parce qu'on l'aura programmé, et puis il vous fera un discours. C'est quelque chose de terrible. Eh bien, nous voulons encore être de ceux qui aiment la nature, et nous laisser enseigner, pas simplement par de la mécanique, je n'ai rien contre les inventions, mais je crois qu'il nous faut aussi revenir à cette grande simplicité. Dieu veut nous parler, et il nous dit que toute la nature est là. Pour nous enseigner. C'est Paul qui dit ça. La nature même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans le chapitre 11 de l'épître de Paul aux Corinthiens. Alors, hier, nous avons fait une introduction au sujet des arbres en montrant que Jésus nous dit qu'on reconnaît l'arbre à son et qu'un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, et qu'un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits. Ça, c'est une règle. Et nous soulignons qu'au fond, le monde entier aujourd'hui, le monde qui est dominé par Satan, il essaye de faire porter de bons fruits à de mauvais arbres. Si l'arbre est mauvais, il ne portera jamais de bons fruits. Alors, tout cet effort que vous voyez dans le monde pour améliorer le monde, il est voué à l'échec, parce que le Seigneur l'a dit. L'arbre étant mauvais, il faut mettre la cognée à l'arbre, il faut le couper. L'arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé. Et qu'est-ce que vous voyez que les hommes produisent aujourd'hui? Ils produisent de mauvais fruits. Ils gâtent tout. Hélas. Alors, il y a aussi une autre leçon que nous avons tirée dans Jacques. Il est dit que par exemple, c'est dans Jacques au chapitre 3, n'est-ce pas? Il est dit que un figuier, verset 13, ne peut pas produire des olives. C'est vrai ça, c'est logique, c'est clair. Si tu as un figuier, tu produiras des figues. Mais tu ne peux pas prétendre produire des olives si tu as un figuier. Soyez reconnaissant de ce que le Seigneur vous fait produire. N'est-ce pas? Chacun a un don particulier. Et si moi je suis figuier, je produirai des figues. Mais si je suis un olivier, je ne peux pas produire des figues. Ou si je suis une vigne, eh bien, la vigne, elle ne produira pas non plus des figues. Chaque plante produit son fruit selon son espèce. Et dans le corps de Christ, c'est là aussi que nous avons un enseignement, nous devons chercher à produire ou laisser la vie produire le fruit que Dieu veut en chacun de nous. Mais je n'ai pas à envier le fruit de l'autre. Peut-être qu'il me le donnera, je pourrais en manger, mais chacun de nous, nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous a donné. Et on s'accepte tel qu'on est. Si je suis figuier, je reste figuier. Si je suis olivier, je suis olivier. Bon. Et nous avons vu qu'alors les arbres qui ne portent pas de fruits sont comparés à des hommes ou des hommes qui ne portent pas de fruits. Ils sont, dans l'épître de Jude, considérés comme deux fois morts et déjà déracinés. Donc nous pouvons recevoir des leçons de la part des arbres. Depuis le commencement de la Bible à la fin. Et je vous ai cité plusieurs arbres. Déjà dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Et puis on est allé jusqu'au livre de l'Exode, on est allé plus loin. Et on a fini notre lecture, si vous vous en souvenez, par ce qu'on appelle l'apologue, la petite fable du fils de Gédéon, le survivant là, de toute cette famille, et qui apprend que son demi-frère a été proclamé roi après avoir assassiné tous ses frères. Et alors il parle, c'est dans le chapitre 9 des juges, oui. Et je relirai ce verset. Parce qu'on a dit, de quels arbres est-ce que nous allons parler maintenant, qu'on a fait l'introduction. Alors, c'est Jotham, chapitre 9 des juges, qui est informé que Abimelech a été nommé roi. Alors, il s'adresse à Sichem, au verset 7, et il dit, « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Et ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Alors les arbres dirent au figuier, viens toi et règne sur nous. Mais le figuier leur dit, renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour planer sur les arbres? Et les arbres dirent à la vigne, viens, toi, et règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres? Et alors, qu'est-ce qu'on a vu? Les arbres demandent à l'épine. Les arbres demandent au buisson d'épines, viens toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si donc de bonne foi, vous voulez moindre pour votre roi, alors que les épines sont quoi? Le symbole de la malédiction de la terre. C'est depuis le péché qu'il y a des épines. Avant le péché, il n'y avait pas d'épines. Maudit est le sol à cause de toi, il produira des ronces et des épines. C'est une malédiction. Et c'est justement maintenant le buisson d'épines qui va régner sur les arbres. Et vous voyez, si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Vous avez déjà vu l'ombrage d'un buisson d'épines. Sinon, le feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Eh bien, nous avons vu que les hommes, au fond, eux aussi, ont choisi le buisson d'épines qui règne maintenant dans ce monde. Alors, je vous disais, de quels arbres est-ce que je vous parlerai? J'ai pensé, bien, je pourrais peut-être commencer avec la lettre A. Alors, si je commençais avec la lettre A, je pourrais vous parler de l'acacia. L'acacia, on en a déjà parlé, c'est l'arbre du désert. C'est l'arbre qui se trouvait dans le livre de l'Exode, spécialement, il en est parlé dans l'Exode. J'en ai dit quelques mots, je n'y reviens pas. C'est quand Dieu a commandé à Moïse de construire le tabernacle, il fallait du bois pour faire ce tabernacle, ce temple portatif. Et quel arbre est-ce qu'il y avait dans le désert? C'était le bois de Sittim, c'est-à-dire l'acacia, qui est le bois le plus léger, mais qui est imputrescible, qui avait toutes les qualités pour cela, et qui se laisse couper en planches, et ce qui nous montre que Dieu, quand il nous demande quelque chose, il nous donne la possibilité d'accomplir sa volonté. Ce que Dieu ordonne, il le donne. Il n'a pas demandé à Moïse de lui construire une arche avec du bois de cèdre, quand il n'y a pas de cèdre, au désert, mais avec du bois d'acacia. Bon, mais ça, je vous laisse y songer, méditer là-dessus, sur le bois d'acacia, qui était très pratique pour faire des meubles aussi, et qui se trouvait justement spécialement dans le désert de Sinaï et en Égypte. Mais ensuite, eh bien, j'aurais pu continuer avec la lettre A, et je vous aurais parlé de l'amandier, parce qu'il est parlé des amandes. Vous aimez les amandes? Mais il est parlé de l'amandier. Et l'amandier, c'est aussi très symbolique. Vous savez que le bâton qu'avait Aaron, la verge d'Aaron, c'était un bâton d'amandier. Et Dieu a fait fleurir sa verge. L'amandier a fleuri pour montrer que c'était bien à Aaron que Dieu avait dévolu une charge avec Moïse, quand on contestait le pouvoir d'Aaron et de Moïse. Il avait donc un bâton d'amandier. Et en Palestine, en Israël en particulier, et ça je l'ai vu de mes yeux, l'amandier, qu'est-ce qu'il caractérise? C'est le premier arbre qui fleurit. Et quelles sont les fleurs de l'amandier? Elles ont la couleur de mes cheveux. C'est blanc. Et dans le chapitre 12 de l'Ecclésiaste, il est parlé de la vieillesse, et il est parlé que quand l'amandier fleurit. Hein? Il y a toute une description de ce qui arrive aux vieillards, il y a les dents qui manquent, celles qui moulent sont en petit nombre, etc. Quand les battants se ferment sur la rue, quand on n'entend plus le bruit de la meule, etc. Tout ça, c'est formidable ce chapitre 12. Hein? Et puis il est dit, quand l'amandier fleurit, c'est les cheveux qui deviennent blancs, c'est un signe de vieillesse. Hein? Moi, j'espère quand même être encore jeune, mais c'est ça, l'amandier qui fleurit, c'est parce que c'est les fleurs blanches de l'amandier. Puis quand la sauterelle devient pesante, ben, vous voyez, on risque d'être pesonnant, attention, hein, ne devenez pas trop pesant, parce que ma femme dit que les gens meurent parce qu'ils mangent trop, alors faisons attention. Ne trouvons pas comme un certain ami que vous connaissez, il trouve que c'est très beau à un certain âge d'avoir une petite bedaine, ça c'est bien, mais sa femme elle râle, elle dit non c'est pas vrai. Bon, alors toute la Bible nous parle, vous savez, et c'est très pratique, puis il y a aussi beaucoup d'humour dans la Bible. Et puis il y a une chose, la vision de Jérémie, quand il a sa vocation. Il a dit, que vois-tu Jérémie? Il dit, je vois un bâton d'amandier, une branche d'amandier. Puis le Seigneur dit, tu as bien vu Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. L'amandier est le symbole que ce que Dieu a dit dans l'Écriture se fera. Hein? Dieu accomplira sa parole. Tu as bien vu, Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Après l'hiver, malgré l'hiver, qu'est-ce qui arrive? L'amandier fleurit. C'est le signe du printemps en même temps. Mais c'est aussi une image des cheveux blancs et de la sagesse qui nous est donnée quand les cheveux blanchissent. Mais vous voyez, je ne vais pas suivre l'ordre alphabétique pour vous parler des arbres. Mais je vous dis simplement ce qu'on pourrait faire. Hein. C'était une manière de faire. On aurait pu parler de la manière. Puis après, on arriverait aux dernières lettres. À T, je vous parlerai des térébintes, etc. Et puis, on irait encore plus loin. Mais vers 4 heures du matin, je me suis réveillé, je me suis dit, le Seigneur m'a dit, mais tu pourrais quand même, pour ne pas trop les embrouiller, t'en tenir au texte. Quand les arbres ont demandé un roi, ils ont commencé par l'olivier. Alors, ce matin, on parlera de l'olivier. Si Dieu le permet, on parlera de l'olivier, puis peut-être du... Ensuite, ils ont demandé à qui ? Au figuier. Hein, c'est ces premiers arbres qu'on trouve déjà dans la Genèse. Le premier arbre dont il est parlé dans la Genèse, au fond, c'est du figuier. On l'a vu. Hein, ils ont pris des feuilles de figue. Forcément, il y avait un figuier, puisqu'ils ont pris des feuilles de figue pour se couvrir, pour s'en faire des ceintures. Puis après, on a vu que le deuxième, ou le troisième, puisqu'il y a le bois de gopher, ce serait le cyprès, donc qui a servi à la construction de l'arche, mais on a vu que le troisième, ce serait alors l'olivier, n'est-ce pas? La colombe a arraché un rameau d'olivier. Donc, s'il y avait un rameau d'olivier, il y avait l'olivier qui était là. Et alors, l'olivier, donc, il est considéré par les orientaux comme étant, en quelque sorte... un arbre qui est tellement utile qu'on l'appelle le roi des arbres, en quelque sorte, pour beaucoup de raisons. Alors, nous allons voir ce que l'Écriture nous dit au sujet de l'olivier. Les anciens l'appelaient le premier des arbres. Et vous voyez, ici, c'est quand, dans l'apologie, l'apologue de Jotham, eh bien, il le cite en premier. Il demande à l'olivier, veux-tu régner sur nous? C'est les arbres qui demandent ça. Alors, on l'appelait le premier des arbres. Et si vous connaissez un peu les lieux où se trouvent des oliviers, l'olivier peut atteindre 16 mètres. De hauteur. Mais ce qui caractérise l'olivier, c'est qu'il a une croissance très lente. Et il croît à une certaine altitude au-dessous de 7 à 800 mètres. Mais il y en a donc beaucoup en Palestine. Et ce qui est intéressant quand on étudie l'olivier, c'est qu'il exige une culture longue et une attentive discipline, et qu'il faut attendre plusieurs années avant d'avoir les fruits et de le tailler ou de le greffer. Et au début de la vie de l'olivier, il faut l'arroser, il faut bêcher plusieurs fois la terre, et il faut même y mettre de l'engrais. L'olivier demande beaucoup de soins dans ses premières années, comme les enfants. Vous comprenez? Que les enfants sont comparés à des oliviers. Et il y a un verset que j'aime beaucoup, et quand j'ai vu toute une famille arriver ce matin, j'ai pensé à ce verset du psaume 126, si je ne m'abuse, où il est dit, et non pas 126, 120,
Non, 128. Oh, il fait aussi parler du 127, mais 128. Il est dit ceci. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde. Vous voyez que la femme est comparée à un arbre, hein, à la vigne. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Ça, ça ne va pas tout à fait avec les théories ultra-féministes. Dans l'intérieur de ta maison. Je sais que ce n'est pas toujours possible, mais le Seigneur le sait aussi. Mais il a dit, tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Vous ne trouvez pas que c'est beau, ça? Les enfants, les fils, vous pouvez mettre aussi les filles, mais enfin, les enfants sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Mais alors, comme vous savez, l'olivier demande des soins. Et il est reconnu que l'olivier ne porte vraiment ses fruits qu'après 15 à 19 ans. C'est là qu'il donne vraiment tous ses fruits. Mais avant, il faut beaucoup s'en occuper, puis pas tout de suite vouloir du fruit avant le temps. Alors faites attention, vous parents, de ne pas forcer vos enfants sur certaines choses. Il faut d'abord les éduquer, il faut en prendre soin, il faut arroser, il faut bêcher. Ça prend du temps, mais le Seigneur vous bénira. Si vous savez consacrer du temps aussi à vos enfants et ne pas vous dire « Oh ben, ils ont la télévision pour être enseignés ». Attention à cela, hein, j'ai ça en horreur. C'est pas la télévision qui va bien enseigner vos enfants. Si vous-même, c'est un papa et c'est une maman et c'est un papa, c'est ce que nous verrons dans les camps. Mais l'olivier nous enseigne beaucoup de choses, donc il ne donne pas du fruit très vite, il faut donc de la patience. Mais une fois qu'il est en pleine maturité, il dure des siècles, ça, ça vaut la peine, c'est au fond la vie éternelle en quelque sorte. Une fois qu'il est arrivé à maturité, l'olivier peut durer des siècles. De sorte que quand vous allez à Jérusalem, vous voyez encore des oliviers qui ont peut-être 1000 ans. Il y en a même qui disent que ce sont les oliviers que Jésus, du temps de Jésus, je ne le crois pas trop. Mais enfin, ça a repoussé. Parce que Job nous dit aussi que pour un arbre, n'est-ce pas, quand nous mourons, surtout dans l'Ancien Testament, on ne savait pas trop bien ce qui arrivait à ceux qui mouraient. Et Job, autant des patriarches, puisqu'il vivait, on pense au temps des patriarches, au temps d'Abraham ou de Moïse, eh bien, Job dit au chapitre 14 de son livre, un arbre, verset 7, vous voyez, un arbre, il a de l'espérance. Vous aviez déjà pensé que les arbres avaient de l'espérance? Passé à côté d'un arbre, un arbre a de l'espérance. Et toi, tu as de l'espérance? Quand je passe vers un arbre, je me dis « Espère !» Parce qu'un arbre, il a de l'espérance. Voilà un témoignage. Le prédicateur, l'arbre, qui te dit « Espère !» Mais oui, tu dis « Oh, l'arbre, hein, je peux aussi m'y pendre. » Oui, mais c'est pas ça qu'il te dit. Mais évidemment, c'est aussi aux arbres. Les arbres peuvent servir de potence. Cette fois, dans la parole, on trouve les arbres qui servent de potence. Mais ça, c'est un jugement. Et puis il est parlé du bois, et que Jésus a été pendu au bois. Il n'est pas dit quelle sorte d'arbre, n'est-ce pas? Mais Judas, vous savez, qui s'est pendu à un arbre, lui aussi. Mais c'est pas ça que l'arbre nous rappelle. Un arbre, il a de l'espérance, verset 7. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Alors moi, je pense que les oliviers de Gethsémané sont des rejetons des premiers oliviers, puisque c'était un jardin d'oliviers. Alors, donc, il y a des rejetons de ces oliviers du temps du Christ où Jésus a pleuré, a été en agonie dans ce jardin des oliviers. Et puis, il a dit, quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Mais vous voyez que pour qu'un arbre croisse, pour qu'un arbre pousse, il faut de l'eau. Alors là, je pourrais vous citer aussi une foule de versets, psaume premier, bienheureux l'homme, n'est-ce pas, qui a son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite dans sa loi jour et nuit, il sera comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau, des courants d'eau, son feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fait prospère, lui réussit. Et puis vous avez aussi cela dans le chapitre 17 de Jérémie, bénis l'homme qui se confie en l'Éternel, il sera comme un arbre planté près des courants d'eau, et même dans l'année de la sécheresse, il ne cessera pas de porter du fruit. Mais pour qu'un arbre porte du fruit, il faut qu'il y ait ces éléments essentiels, l'eau, et puis aussi le soleil. Alors, souvenez-vous donc de l'histoire de l'olivier. Un olivier, pour qu'il produise beaucoup, eh bien, il faut savoir attendre, avoir de la patience, pas vouloir des fruits immédiat. Ne forcez pas avec vos enfants, ou n'essayez pas de forcer la conversion des gens. On se trompe toujours. Mais soyez témoins, apportez l'amour, apportez ce qui est nécessaire aux gens, mais n'essayez pas de convertir vous-même, parce que vous raterez votre affaire. Laissez l'Esprit de Dieu empérer. Souvenez-vous de l'olivier. Et si vous voulez qu'il y ait des bons fruits et qu'il s'épanouisse et qu'il y ait longévité après, hein, que ça aille jusqu'au bout, eh bien, ayez de la patience. Et vous savez, je trouve tellement merveilleux de voir ce que Dieu disait. Tous les 7 ans, il fallait faire relâche hein, en Israël. Et pour les oliviers aussi, il ne fallait pas les pousser. Au bout de 7 ans, on laissait la terre en jachère, et puis s'il y avait des olives, c'était pour qui? Pour les pauvres. Les pauvres pouvaient prendre les olives comme aussi les raisins dans la vigne. Mais on laissait reposer la terre. Et dans le chapitre 23 de l'Exode, il est dit, tu feras cela aussi pour ton olivier et pour ta vigne. Les ordres de Dieu sont très précis. Et alors, les soins bien, développent dans la société la prudence. On a pris l'olivier comme justement pour montrer que si nous voulons grandir, il faut d'abord de la prudence, il faut de la prévoyance, et puis des habitudes industrieuses, pas de paresse. Avec nos enfants, ça demande du travail. Hein. Et il faut leur consacrer nous-mêmes du temps. Et puis aussi, l'olivier, c'est le symbole de l'amour de la paix. Puisque c'est le symbole de la paix, n'est-ce pas? Le rameau d'olivier est devenu le symbole de la paix. Alors maintenant, voyons un peu ce que produit l'olivier. Une fois qu'il est en place, qu'il a l'âge qui convient, près de 15 à 19 ans, alors là, eh bien, on voit les fruits. Qu'est-ce qu'il produit? Parce que Dieu disait qu'à Israël, je vais te conduire dans un pays d'oliviers, un pays où il y a des oliviers, des grenadiers, et puis des figuiers aussi. Mais là, il dit des oliviers. Bien, l'olivier, qu'est-ce qu'il produit? Des olives. Qu'est-ce qu'on fait des olives? Moi, je ne sais pas si vous les aimez. Il y en a qui ne les aiment pas. Mais on les mange. Hein. L'olivier nous donne une nourriture. Déjà de son fruit, n'est-ce pas? Nous mangeons des olives vertes ou des olives noires. On les mange. Et qu'est-ce qu'ils donnent quand on presse les olives? De l'huile, n'est-ce pas? Et l'huile, c'est quand même à la base de la cuisine. Et l'olivier donc donne une nourriture qui est base de la cuisine, il donne spécialement l'huile. Du reste, il l'est dit dans Juge 9, laisserai-je mon huile. Une autre traduction dit laisserai-je ma graisse. Hein, parce que on emploie aussi l'huile pour graisser certaines choses. Hein, et c'est bien utile. quand les portes grincent, quand les gonds grincent, vous mettez un peu d'huile. Vous me direz, oui, mais c'est pas d'huile végétale. Ben, si vous n'avez pas d'huile minérale, eh bien, prenez de l'huile végétale, ça ira quand même. L'huile était donc extrêmement appréciée, et encore maintenant. Mais l'huile fournit quoi encore? Souvenez-vous du bon samaritain. Qu'est-ce qu'il a fait avec de l'huile? Il avait de l'huile. Pour un pansement. C'est un médicament, c'est un remède. On emploie l'huile aussi comme remède. Il faut faire passer les pierres aussi. Enfin, je ne vais pas vous donner des renseignements médicaux, parce que ça, je me ferai ramasser par ma femme. Mais enfin, j'ai entendu un homme qui m'a... Il savait que j'ai des pierres rénales. Je lui ai dit, comment votre femme, c'était en Belgique, elle ne vous donne pas d'huile à boire. Moi, j'ai bu une bouteille d'huile et c'est parti, ma pierre. Bon, tant mieux. Il faut voir à chaque cas. Mais en tout cas, l'huile est employée aussi en médecine, comme remède. Et là, on a l'histoire du bon samaritain qui adoucit les plaies avec de l'huile. Mais d'abord, il a désinfecté avec du vin, hein, de l'alcool, puis après, et de l'huile. L'huile et le vin, il l'employait pour panser les blessures du samaritain. Du blessé. Et puis quoi encore? L'huile pour Israël dans le désert, c'était la lumière. Le chandelier, qu'est-ce qui produisait la lumière du chandelier à ses branches? Bien, lisez l'Exode, vous verrez que Dieu dit, tu feras l'huile pour le chandelier. Bien, c'était l'huile d'olive qu'on employait aussi pour éclairer dans le tabernacle. Donc vous voyez, l'huile apporte la nourriture, l'huile apporte le remède, mais l'huile apporte aussi la lumière. Et tout cela, vous pouvez en faire une application pour vos propres vies. Un chrétien, qu'est-ce qu'il devrait pouvoir apporter? Son fruit, eh bien c'est le fruit de la lumière. Son fruit, c'est justement aussi un pansement. Nous devrions être un pansement pour les blessures des autres. Notre vie devrait panser les blessures des autres. Et puis être une nourriture, pouvoir apporter une nourriture. Mais l'huile était employée aussi pour la confection du parfum. Et vous avez tout cela dans le... Je vous donne seulement des points de repère. Dans le chapitre 29 de l'Exode et dans le chapitre 30, pour confectionner les parfums qui devaient monter sur l'autel des parfums, on employait l'huile. Et puis pour faire l'huile de l'onction pour les prophètes, pour les rois, eh bien, il est dit qu'on devait concasser les olives et puis mêler tout cela avec des aromates, etc. Et on en faisait un parfum tout à fait spécial. Et l'olivier, toujours, qu'est-ce qu'on en tirait encore? C'était un bois de luxe. Hein. Et vous avez les deux chérubins qui ont été sculptés pour être sur le propitiatoire de l'arche à Jérusalem. Il est dit qu'ils étaient faits de bois d'olivier sauvage. Parce qu'il y a l'olivier franc, hein, et puis il y a l'olivier sauvage. Et quand vous allez dans ces pays, bon, on vous donne des petites salières, on vous donne des cuillères à salade qui sont faites en bois d'olivier. On peut faire beaucoup de choses avec du bois d'olivier. Mais hélas aussi, qu'est-ce qu'on fait? Des bidons. Avec le bois d'olivier, on peut faire aussi des statues et se prosterner devant elles. Et donc ça peut entrer dans le temple, mais ça peut être aussi un piège. Mais on en fait aussi avec ce qui reste, on en fait un combustible. Hein. On se chauffe avec du bois d'olivier. Mais vous voyez tout ce qu'on peut retirer d'un même bois, d'un même arbre, on en tire donc de la nourriture, de l'huile, des remèdes, la lumière... Et forcément, aussi le parfum, et aussi alors des petits meubles ou un combustible qui nous apporte de la chaleur. Lumière et chaleur, tout cela peut venir du même arbre. Et quand on est dans la présence d'un chrétien, il faut qu'on soit un peu réchauffé. Mais il y a des chrétiens qui sont des frigidaires. On a froid quand on a leur constat. Mais j'espère que nous ne sommes pas des frigidaires, mais que nous apportons aussi un petit peu de chaleur. Et on peut dire que en Israël, c'était l'image de la santé nationale, et je dirais aussi individuelle, hein, puisque une famille était comparée à une grande table avec des plants d'olivier tout autour, des enfants qui sont une bénédiction. Et il y a des psaumes que je vous cite aussi, mais vous verrez qu'on pourrait ne jamais finir, tant il y a à dire sur l'olivier. Je donne quelques points que vous méditerez vous-même, parce que j'espère que ça vous donnera le goût de l'écriture. Au verset 10 du psaume 52, il est dit « Et moi, je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. » Ah, si dans nos cultes, il y avait plus d'oliviers verdoyants. Hein. Quand vous êtes dans la maison de Dieu, souvenez-vous que vous êtes un olivier. Alors, apportez un peu de lumière, apportez un peu de chaleur, soyez conscient de ce que vous êtes. Et il y a une nourriture, il y a aussi un parfum. Apportez, quand on vient dans un culte, souvenez-vous de la leçon de l'arbre, hein, de l'olivier. Et que nous puissions être des oliviers verdoyants. Ils restent toujours verts, les oliviers. Hein. C'est quelque chose de très beau. Je serai, Dieu voulant, en août, dans la contrée de Florence, eh bien, c'est couvert dans le Val di Pesa où je vais pour faire le camp, c'est couvert d'oliviers et de cyprès. Et c'est d'une beauté, n'est-ce pas, ce vert des oliviers, ce vert un peu cendré de l'olivier. C'est quelque chose de magnifique. Et puis ces olives-là, on les bat, n'est-ce pas, on bat les arbres, puis on met des toiles et on ramasse là les olives. Eh bien, pour ces pays-là, c'est toute une richesse, l'olivier, puis on en fait aussi toute une industrie avec certaines choses que je viens de vous citer. Donc, il y a beaucoup de beauté. C'est un symbole aussi, l'olivier, de la beauté. C'est Dieu qui a créé ça. Et il est dit, mais les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Il n'y a pas de langage, il n'y a point de parole, toutefois leur voix est entendue. Est-ce que les arbres vous parlent? Eh bien oui, les arbres doivent nous parler, nous devons savoir nous arrêter et recevoir les leçons, par exemple, de l'olivier, et vous voyez qu'elles sont multiples. Et quand l'olivier manque, eh bien, c'est un drame dans ces pays. Il suffit de lire au chapitre dans Habacuc, vous savez, ces petits prophètes qu'on lit pas souvent, hein, parce qu'on dit, qu'est-ce que c'est que ces prophètes? Ils ont des drôles de noms, Habacuc, par exemple. Est-ce que vous avez déjà lu Habacuc? Eh bien, pourtant, c'est fantastique ce qu'on peut trouver dans le prophète Habacuc. Moi, je l'aime beaucoup, parce que j'étais malade, et puis que j'avais besoin de la parole qui m'a fait vivre, parce que si je suis encore ici-bas, si je suis encore en vie, c'est bien parce que vraiment je me suis nourri de ces paroles. Il y a 51 ans maintenant que Dieu m'a appelé, et il m'a appelé par le prophète Jérémie, et Jérémie disait, tes paroles se sont-elles trouvées, je les ai mangées. Elles ne sont pas restées dans la Bible, je les ai mangées. Elles ont fait l'allégresse et la joie de mon cœur. Je voudrais tellement que vous le voir dans la Bible, un livre rébarbatif, vous vous passionniez pour le livre. Et mieux pour le livre, mais pour celui que le livre nous révèle. Et c'est le Seigneur. Mais il ne faut plus que ces paroles soient simplement dans les couvertures de la Bible, mais qu'ils soient dans nos cœurs. Et alors, dans Habacuc 3, au verset 17e, il est dit ceci. car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien. Vous voyez, quand il y a la malédiction sur un pays, le figuier, qui est un arbre béni aussi, ne fleurira pas. Et puis, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront plus de nourriture. Vous voyez, c'est une malédiction, c'est un jugement que Dieu permet quand il y a cette pénurie. Et vous auriez d'autres versets, mais puisque je suis dans Habacuc et que je vous ai dit qu'il y avait des versets fantastiques, des perles dans les petits prophètes, je vais vous en citer un où il est dit, au verset 4 du chapitre 3, la majesté du Seigneur remplit les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main et là réside sa force. Ça, c'est un verset que j'ai beaucoup aimé. Des rayons partent de sa main et là réside sa force. Vous voulez être fort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-le vous prendre la main. Et quand votre main est dans la main du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des rayons de force vous sont communiqués. Ben, c'est dans Habacuc, c'est un petit prophète. Des rayons jaillissent de sa main et là réside sa force. Si vous voulez être fortifié, marchez la main dans la main. Comme un enfant tient la main de son père. Et vous recevez une force qui est tout à fait surnaturel, c'est vrai de vrai ce que je vous souligne là. Et alors, si nous voulons continuer, j'ai dit que avec le bois d'olivier, on pouvait faire, hélas, une idole. Et je vais vous dire quelques versets qui vous montrent la stupidité de l'homme. Dieu a donné les arbres, hein, mais pas pour qu'on les adore. Et malheureusement, les hommes ont fait des arbres un objet d'adoration. Sous tout arbre vert, je pourrais vous citer tous les versets où il est question que les hommes ont rendu des cultes aux arbres. Dès qu'il y avait un arbre vert, on y dressait une idole, et puis là, on y sacrifiait. Vous avez ça à travers toute la Bible, alors qu'il y avait un lieu où on devait se réunir pour adorer le Seigneur. Bien là, non, sur les hauteurs, sous tout arbre vert. Je me souviens, j'ai été à Bali une fois dans cette île, là, d'Indonésie, et j'ai vu de l'encens qui montait dans toutes les montagnes, là, et c'était devant des arbres verts, et c'était encore aujourd'hui des idoles. Hein. On brûlait de l'encens aux idoles. Et il y a dans le chapitre 44 d'Ésaïe, un verset, un texte qui est fantastique, pour nous montrer comment on peut être stupide. Je lis depuis le verset 6. Ainsi, chapitre 44 d'Ésaïe, dit l'Éternel, le roi d'Israël, son rédempteur, « Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qui le déclare et me le prouve? Depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver? N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. » Verset 9. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Et pourtant, on peut tailler le bois d'olivier, on peut faire une très belle œuvre. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici, tous ceux qui travaillent seront confondus, parce qu'il y en a qui travaillent, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble, ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache, il travaille avec le charbon, Il la façonne à coups de marteau, vous voyez la forge, hein, et la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, il fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas, et il produit une figure d'homme. Vous voyez hein, le travail qu'on est en train de faire. Hein. L'homme arrive à faire une figure d'homme, quelque chose qui lui ressemble. Hein. Une belle forme humaine, Dieu ne dit pas que ce n'est pas une belle forme, hein. Il arrive à faire une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des roures et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt. Ça peut être du chêne, ça peut être du rouvre, ça peut être aussi de l'olivier, puisque les chérubins étaient faits en bois d'olivier. Et il plante des pins, la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Et il en prend et il se chauffe. Et il met aussi le feu pour cuire du pain. Donc, on a aussi besoin du bois pour cuire sa nourriture. Il cuit du pain et du bois. Il en fait également un dieu. Et il l'adore. Vous rendez-vous compte, hein? Ce qu'il est en train de brûler, il en fait en même temps un dieu et il l'adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande, il apprête un rôti et se rassasie, il se chauffe aussi, et il dit, ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole, il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque, et il s'écrie, sauve-moi, tu es mon dieu. Hein? Vous connaissiez ce chapitre, sûrement. Mais ça vous parle. Et c'est de l'actualité, hein. On est devant une idole. Il y a 3 ans, j'avais prêché pendant à peu près une année dans une certaine église, et puis beaucoup de gens se sont donnés au Seigneur, mais voilà un certain prêtre qui n'a rien voulu comprendre, il leur a dit après, ben vous savez maintenant, hein, notre pauvre statue de la Vierge Marie, c'est une honte de la promener comme elle est. Il faut faire une collecte maintenant parce que on veut la restaurer. Et évidemment, c'est lui qui a coulé le monde parce que les gens, ils avaient trop bien compris. On va pas refaire une Vierge Marie en bois ou en or, puis la promener sur en procession. C'est pas moi qui leur avais dit quoi que ce soit. Mais ils avaient compris par la parole. Si vous lisez cela, est-ce que vous vous mettrez encore à genoux devant une idole? Vous me direz, oui, mais ça la représente. Je passe à travers elle, tu passes à travers le bois. Ta prière, elle n'a pas besoin de traverser le bois. Comme tu respires, tu pries. Tu pries dans ton auto, tu pries partout. C'est ça? Mais vous avez entendu comme c'est vrai? Les gens, on leur demande, comment allez-vous? Oh, je vais très bien. Oh, tout sont du bois. Vous avez entendu expression ici? En tout cas, dans les vieux pays, hein. Il faut toucher du bois. Puis tu vois des gens intelligents qui touchent tout de suite du bois. On est en train de dire, mais pourquoi est-ce que toucher du bois? Ah ben, vous savez, on a l'habitude. Comme si le bois allait les garantir d'une catastrophe. Vous voyez, on a besoin de nous laisser corriger par la part. Eh bien, j'ai essayé de vous montrer tout ce que l'on peut apprendre de l'olivier. Mais alors, gardons-nous de pêcher avec l'olivier et de faire d'un olivier, n'est-ce pas, une statue, une idole, et de l'invoquer. L'olivier me pousse à louer qui ? L'auteur de l'olivier, hein, et à le bénir pour ce qu'il me donne par l'olivier, mais je ne me prosterne pas devant l'olivier. L'olivier n'est pas mon Dieu. L'olivier est une bénédiction de Dieu pour moi. Et il m'enseigne la patience avec mes enfants. Il m'enseigne la prudence. Il m'enseigne que si j'ai fait un enfant, enfin si Dieu m'a donné un enfant, et il mérite d'avoir des soins. Et puis que je peux prier pour cet enfant parce que c'est Dieu qui donne la vie. Je crois encore que c'est lui qui donne la vie. C'est lui qui forme l'enfant dans le sein maternel. Il se peut qu'il y ait quelques complications. Eh bien, tout cela nous pousse encore à invoquer le Créateur qui peut être le réparateur de tout. Nous y croyons et c'est pourquoi nous prêchons, parce que sans ça, il y a longtemps que je ne prêcherai plus. Non, je ne veux pas être simplement un prédicateur. Surtout un prédicateur qui vous dit ce qu'on entend à la radio ou à la télévision ou ce qu'on voit dans les journaux, que Dieu lui dit qu'il a besoin de 8 millions. Comme si Dieu était près de la salut et qu'il faut qu'il aille, qu'il ramasse du fric. Mais c'est abominable et c'est soi-disant fondamentaliste, c'est des gens qui croient soi-disant à la parole, qui vous disent que c'est ça la parole, que l'Église catholique, c'est l'abomination de la désolation ou je ne sais trop quoi. C'est sectaire ces messages-là. Et puis ça détruit la foi des gens. Alors les gens n'y croient plus, hein, mais ils disent, ben c'est du business, n'est-ce pas, l'évangile? Alors nous devons nous séparer de ces choses. Il faut qu'on sache qu'on ne prêche pas l'évangile pour gagner notre vie, mais parce que Dieu nous a appelés. Et on ne trafique pas avec les sentiments des gens. Il y a toujours des bonnes vieilles dames qui sont bientôt près de la mort, puis qui sont très heureuses d'avoir la visite d'un pasteur qui vient leur dire, mais on s'occupera de vous, n'est-ce pas, vous faites ce petit papier-là pour la fin de vos jours, on vous fera un bel enterrement, puis vous nous donnez le reste. C'est comme ça qu'on a de l'argent, et on vous impose la dîme, le 10%, alors que pour des uns, c'est trop, parce qu'ils doivent donner de ce qui leur manque, souvent. Ça peut être une indication, la dîme. Mais on ne peut pas imposer les choses. Quand vous voyez comment Dieu... Il y avait besoin de dons pour au désert. Mais c'était des dons volontaires. Personne n'était forcé que ceux qui le veulent donnent volontairement. Et il y a eu tellement qu'on a dit, arrêtez, il y a trop. C'est ça. Tandis qu'on vous recevez des circulaires où on vous dit empruntez pour nous donner et Dieu vous donnera 3 fois plus. Menteur. On ne joue pas avec ça. On joue pas avec... Et j'ai connu des gens qui ont fait des emprunts à la banque pour faire un don à telle œuvre. Et puis après, qui tiraient la langue. Hein. Mais on ne joue pas avec Dieu. Quand tu as un besoin, entre dans ton cabinet et demande à Dieu qui voit dans le secret et Dieu te récompensera. Il n'est pas dit, prends du beau papier, fais une belle lettre et nous voilà par la poste à tout le monde. Ça coûte cher tout ça. Puis la poste, hein, elle ne va pas vite. Tandis que... Nous nous apercevons que si nous réclamons quelque chose à Dieu, c'est vraiment de lui, avant qu'il crie, je répondrai pendant qu'il parle, je vais offrir. Parce que j'ai prié hier, et puis je reçois aujourd'hui quelque chose qui a été envoyé il y a 4 jours. Donc, pour que ça arrive le lendemain, ou des fois le jour même. De sorte que vous voyez que c'est vrai, vous pouvez vous coller à l'écriture, non pas parce que vous êtes un bibliolâtre qui adore la Bible, hein, j'adore pas la Bible, mais j'adore celui que la Bible me révèle. Alors, on va finir avec ce fameux Olivier, avec le dernier passage, il y aurait tant d'autres choses, mais qui vous intéresse, c'est ce que Paul dit au sujet de la Grèce. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Parce que ce que j'ai essayé de vous dire au sujet de ce que produit l'olivier, au sujet de la croissance d'un olivier, combien il faut de soins, n'est-ce pas? Eh bien, Paul nous parle de la Grèce, il parle d'Israël, qui a manqué la bénédiction en ne reconnaissant pas le Messie. et il a été mis de côté, et c'est l'Église qui est entrée dans la bénédiction. Puis au verset 16 du chapitre 11, il est parlé donc des prémices. Les prémices, c'est Israël, hein. Elle dit, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, c'est de qui qu'il est parlé ici? Des païens, hein? Nous étions des païens, hein? Nous, non, du paganisme, tandis qu'Israël avait la connaissance du vrai Dieu. Alors, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé à leur place, hein? Puisque les Juifs ont refusé le Seigneur, mais des païens se sont convertis au Seigneur. Et il est dit que ces païens ont été greffés à la place de qui? Des branches qui ont été coupées, des Juifs qui ont été rejetés. Mais si toi tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier, parce que au fond, tout le christianisme vient d'où? Quand même, du judaïsme, n'est-ce pas? Le salut vient des Juifs. Le tronc, c'est Israël. On ne peut pas nier ça, c'est pour ça qu'un chrétien ne peut pas, ne pourra jamais être un antisémite. Nous avons reçu la graisse de l'eau, de l'olivier, nous avons été nourris de cela. Tout l'Ancien Testament nous annonçait la venue du Seigneur, du Christ. Alors, tu as été greffé à leur place et rendu participant de la racine nourricière de l'olivier. Ne te glorifie pas aux dépens de ses branches. Donc, nous ne nous glorifions pas vis-à-vis des Juifs. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. On ne peut pas ignorer le judaïsme. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi, je sois greffé. C'est nous maintenant, l'Église, qui sommes de la vérité. Attention. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes pourquoi? Par la foi. C'est parce que tu as cru. C'est parce que nous avons cru que nous sommes sauvés. Mais ce n'est pas parce que nous étions de la bonne religion. C'est uniquement parce que nous avons cru. Et eux, s'ils sont perdus, c'est pas parce qu'ils n'étaient pas dans une bonne religion. C'est pas la religion qui sauve. Mais ils n'ont pas eu la foi. Or, vous avez aujourd'hui un tas de gens qui ont une religion. Je sais pas ce qu'il y en est de vous. Vous avez peut-être votre religion. Mais je vous demande, est-ce que vous avez la foi? La foi, qu'est-ce que c'est? C'est croire ce que Dieu dit. C'est croire cette parole. C'est pas croire qu'il y a un Dieu. Mais c'est croire ce que Dieu dit. C'est prendre Dieu au mot. Voilà ce que c'est la foi. Alors, toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Si vous n'avez que la profession chrétienne, eh bien, ce sera, il vous arrivera la même chose. Si vous n'avez pas vraiment la foi, si vous dites, moi je suis né catholique, moi je suis né protestant, moi je suis né évangélique, c'est pas ça qui vous sauve, comprenez-vous? C'est pas votre naissance qui vous sauve, c'est pas le sang et la chair, mais c'est la foi au Seigneur Jésus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, parlant des Juifs, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, alors voilà pour les Juifs, hein. Si les Juifs ne persistent pas dans leur incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau, et ils donneront du fruit, et c'est ce que nous verrons. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, selon sa nature, et greffé contrairement à la nature, hein, parce que nous l'avons souligné hier soir, hein, que, au fond, on prend une branche d'un olivier franc pour le greffer sur un olivier sauvage, hein. Et c'est la branche de l'olivier franc qui porte les fruits. Tandis que l'exemple que Paul prend, c'est un exemple qui est tout à fait contre nature. Parce qu'on ne prend pas une branche d'olivier sauvage pour le mettre sur l'olivier franc. Mais il dit bien que c'est contre nature ce qui a été fait. Mais Dieu peut, puisqu'il est au-dessus de la nature, puisqu'il est l'auteur de la nature, il peut même produire de la vie chez un païen par une graisse qui est habituellement contre nature. Donc ne dites pas que Paul ne s'y connaissait pas en Grèce. Il dit bien contre nature. Si toi, contrairement à la nature, tu es greffier sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils greffés selon leur nature sur leur propre olivier, parce que les Juifs, oui, il y a salut aussi pour les Juifs, et un jour, ils seront sauvés parce qu'ils seront greffés sur leur propre olivier, et Israël ouvrira les yeux, c'est ça la gloire d'Israël. Voilà ce que je pensais pouvoir vous dire sur l'olivier. On va s'arrêter, je pense, un moment pour vous détendre. Et puis, est-ce que c'est assez ou bien est-ce qu'on peut prendre encore un petit moment, un autre arbre? Mais peut-être pour changer d'atmosphère, vous voulez vous lever? Vous avez dit jusqu'à midi? Oui, mais on ne veut pas vous assassiner. On peut prendre 5 minutes pour se détendre, pour chanter ou à montrer la richesse de l'olivier. Je vais vous parler maintenant aussi du palmier, hein? Même si on reprendra le figuier peut-être ce soir. Hein? Parce que le figuier vient après l'olivier. Hein? Il ne veut pas régner non plus sur les arbres. Mais je prends le palmier en vous citant un autre verset, parce que d'après ce qu'on vient de dire aussi, c'est, vous êtes un olivier, hein? Souvenez-vous de ça, vos enfants sont des petits oliviers. C'est beau, hein? Des petits oliviers autour de votre table, souvenez-vous de cela. Il ne faut pas les couper. Il faut les laisser, il faut travailler pour qu'ils croissent. Et il est dit que vous aussi, dans la maison de Dieu, vous êtes comme un olivier verdoyant. Parce que vous abreuvez au courant d'eau, et l'eau c'est la parole, c'est toujours le symbole de la parole, puis vous vous épanouissez au soleil du Seigneur. Le Seigneur est un soleil et un bouclier. Alors, je prends le psaume 92. Au verset 10. Car voici tes ennemis, ô Éternel, voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Nous n'avons pas besoin de nous en occuper de ceux qui font le mal. Ils seront dispersés eux-mêmes. N'ayez pas peur. Tu me donnes la force du buffle. Hein, c'est beau ça.
Oh, je suis fatigué.
Tu me donnes la force du buffle. Si tu donnes la main au Seigneur, hein, des rayons de force jaillissent de sa main, là se cache sa force. Tu me donnes la force du buffle. Et puis, verset 11, je suis arrosé d'une huile fraîche. C'est pas de la vieille huile qui est déjà servie pour faire des frites. C'est une huile fraîche. Et nous avons toujours besoin d'être arrosés d'une huile. C'est une de l'onction qui est parfumée. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Et verset 13 alors. Les justes croissent comme le palmier. On a parlé de l'olivier. Mais maintenant, il est parlé des justes. Tu es un olivier, mais maintenant, tu n'es pas seulement un olivier, tu es un palmier. Les justes croissent comme le palmier. Il prospère où? Dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Et pourquoi? Pour être vus simplement? Eux-mêmes? Pour qu'on les admire? Non. C'est toujours ça. pour faire connaître que l'Éternel est juste. Notre vie doit faire connaître au travers de nos épreuves que l'Éternel est juste. Alors que les gens, quand ils vous voient dans l'épreuve, disent « Mais comment toi qui es un bon chrétien, puis il t'arrive une chose comme ça ?» Ben l'Éternel n'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Vous entendez ça, hein, le monde? Il ne peut pas dire autre chose. Et c'est justement parce que tu es un chrétien que le Seigneur peut t'envoyer cette épreuve pour qu'il soit prouvé que tu n'aimes pas Dieu par intérêt. Et que tu l'aimes pour lui-même. Et que tu crois qu'il est juste, même s'il t'éprouve, même s'il te fait passer par l'épreuve. Dieu veut, s'il parle par les arbres, combien plus veut-il parler par nos vies, hein? On a vu que Dieu parle par les arbres, mais il veut aussi parler par nos vies. Et même, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le silence, quand il nous met à l'écart, il peut faire des fois plus de travail dans les âmes que quand nous, nous voulons toujours nous imposer aux autres. Il nous met des moments à l'écart. Alors, pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ne doutez jamais au sujet de Dieu. Oh, mais si Dieu était amour, si Dieu était puissant, si Dieu était juste, ça, c'est des choses que Satan vous souffle. Arrière de moi, Satan. Tu es un menteur. Dieu ne m'a pas promis que la vie serait facile, mais il m'a dit qu'il me donnerait la force pour traverser toutes les épreuves qui seront trouvées tournées un jour à la louange, à la gloire et à l'honneur de notre Dieu. C'est justement parce que tu es chrétien que tu as peut-être des difficultés et des épreuves, mais ne te décourage pas, regarde les arbres, il y a de l'espérance. Hein. Il y a de l'espérance. Alors, le palmier, maintenant, eh bien, j'aime beaucoup ce verset, et on trouve les palmiers, donc, on a dit déjà dans l'Exode après l'eau amère de Marat, que les Israélites ne pouvaient pas boire, ils se sont mis à murmurer contre Moïse en disant « Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte ?» Ils ont oublié quoi? Comment est-ce qu'ils avaient été délivrés de l'armée du Pharaon? Par la mer Rouge qui s'était ouverte. Hein. Vous voyez un miracle formidable, les armées du Pharaon, puisque Pharaon se repent d'avoir laissé partir Israël, les armées du Pharaon sont derrière eux, ils viennent en tenaille, puis devant eux, qu'est-ce qu'il y a? La mer. Alors qu'est-ce qui va arriver? Ils vont être captifs. Alors ils crient à l'Éternel, Moïse fend la mer, et puis ils partent. De sorte qu'ils viennent de voir une délivrance merveilleuse et ils ont contemplé leurs ennemis. Où? Dans les eaux magnifiques. Ils sont plus que des cadavres. L'autre jour, j'avais un guide au Caire qui m'expliquait que dans une certaine momie, on pense que c'est la momie du fils de Ramsès, on avait retrouvé du sel. Ce qui prouverait qu'il aurait été noyé. Enfin, ça, je vous dis ce qu'elle disait. J'ai pas besoin de savoir qu'il y avait du sel dans la momie de celui qui aurait été le pharaon qui a péri dans les eaux de la mer Rouge pour croire le récit biblique. Mais enfin, on sait que ces choses se sont passées. Mais malgré qu'il y a eu cette délivrance fantastique, voilà qu'ils ont une nouvelle épreuve, ils se mettent à murmurer. Au lieu de se dire, comment est-ce que Dieu va s'y prendre pour nous délivrer? Vous croyez qu'il vous a fait passer la mer Rouge puis qu'il va vous laisser mourir au désert parce que l'eau que vous trouvez là est amère? Dieu enseigne un bois à Moïse, il n'est pas dit quelle sorte de bois, il le jette dans l'eau et l'eau devient douce. Donc vous voyez qu'il y a dans le bois un élément qui purifie. Du reste on le voit aussi pour la lèpre, on mettait le bois, un bois de cèdre pour la purification du lépreux. Donc le bois a une grosse importance. Alors, après Marat, il trouve Élim, chapitre 15 de l'Exode, où il y a 70 palmiers et 12 sources d'eau. Alors, le palmier, à travers toute l'Écriture, c'est le symbole de la croissance du juste. Hein? Les justes croissent comme le palmier. Et puis, c'est aussi le symbole de la grâce et de l'élégance. Vous voyez Salomon qui compare sa bien-aimée à un palmier dans le Cantique des Cantiques. C'est aussi le symbole de l'élévation et de la sagesse. Vous savez que Béthanie veut dire maison des dattes. Comme Bethphagée veut dire maison des figues, eh bien Béthanie, ça voulait dire maison des dattes. Et qu'est-ce qu'on trouvait à Béthanie? Un foyer où le Seigneur aimait se rendre et où une Marie s'asseyait à ses pieds pour écouter sa parole. Elle apprenait la sagesse. Et puis, les palmes, eh bien, c'est aussi le symbole de quoi? Du triomphe, de la gloire. Vous voyez qu'on prenait des palmes pour célébrer la venue de Jésus à Jérusalem. Et puis, c'est aussi le symbole de qui? Des palmes que vous trouvez dans l'Apocalypse au chapitre 7, ceux qui reviennent de la grande tribulation, ils ont des palmes, c'est le symbole des martyrs. Hein, la palme, c'est aussi le symbole des martyrs. Tout ça vient avec le palmier. Et le palmier, c'est l'essentiel, c'est tout à fait essentiel à la vie de l'arabe, du bédouin, qui reconnaît le palmier comme un arbre sacré. Mais alors, attention, n'est-ce pas? Arbre sacré n'est pas là, adoré, mais tous les arbres sont au fond sacrés. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de les détruire. Un arbre qui produit des fruits, Dieu a donné des ordres de ne pas les détruire, même pendant la guerre. Et vous savez, là, je pourrais vous raconter des choses que j'ai vues de mes yeux dans les vieux pays. Mais regardez, je vous cite un verset pour vous montrer comment Dieu s'occupe des arbres. Comment? Vous croyez que Dieu s'occupe des arbres? Oui, c'est lui qui a planté les arbres, qui a fait le premier jardin. Bien, chapitre 20 de Deutéronome. Vous avez un verset qui est très, très frappant. Verset 10 du chapitre 20. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Oui, il y a tout cela, mais j'abrège. Verset 19. Si tu fais un long siège pour t'emparer d'une ville avec laquelle tu es en guerre, tu ne détruiras point les arbres en y portant la hache. Tu t'en nourriras et tu ne les abattras point, car l'arbre des champs est-il un homme pour être assiégé par toi? C'est beau ça. Est-il un homme pour être assiégé par toi? Les hommes doivent mourir parce qu'ils ont péché, mais les arbres n'ont pas péché. Les hommes doivent être détruits peut-être parce qu'ils ont péché, mais tu n'as pas le droit de détruire un arbre. Est-il un homme? L'arbre doit être épargné. Verset 20. Mais tu pourras détruire et abattre les arbres que tu sauras ne pas être des arbres servant à la nourriture. Vous voyez la précision de l'écriture. Et tu pourras en construire des retranchements contre la ville. Alors tu prendras des arbres de la forêt, n'est-ce pas, pour faire des retranchements contre la ville. Mais tu ne prendras pas des arbres fruitiers. Tu laisseras les arbres fruitiers parce que les arbres fruitiers peuvent te servir de nourriture. Vous voyez qu'il n'y a pas un texte qui soit de trop dans l'écriture. Dieu s'occupe des arbres et il nous dit, un arbre, c'est pas un homme. Hein. L'homme a peut-être pu pécher, mais l'arbre, il n'a pas péché. Et l'arbre, il y a une espérance pour un arbre. Et il y avait des palmiers, surtout dans la région de Jéricho. Il y en a beaucoup moins maintenant, mais enfin, il y en a encore. Et dans l'avenir, quand le fleuve sortira, ce fleuve d'Ézéchiel au chapitre 47, il est dit que des deux côtés du fleuve, n'est-ce pas, partout où ira le fleuve, eh bien ce sera la bénédiction, il y aura des arbres de tous les côtés, hein, des deux côtés du fleuve, et il y aura des palmiers. Et je dis maintenant quelques mots sur ces palmiers. Le palmier, on le soulignait hier soir, il doit être dans un terrain arrosé, donc les pieds dans l'eau, mais la tête au soleil, comme on a dit. Hein. La tête du palmier, vous voyez le palmier là, au soleil, mais les pieds dans l'eau. parce qu'il lui faut beaucoup d'eau, plus encore que pour l'olivier. L'olivier, il peut être dans un terrain pierreux. Et je connais un peu ces terrains pierreux à Carmiel où l'on faisait l'huile pour le temple. Il y a beaucoup d'oliviers qui sont très vieux et le tronc, on peut se mettre dans un tronc d'olivier hein, qui est ouvert, on peut se mettre dedans, c'est très grand. On pense qu'Ésaïe, le prophète, s'était caché dans un tronc d'olivier et puis on a scié le tronc, on a scié Ésaïe avec le martyr d'Ésaïe sous le temps de... du roi Manassé, hein. C'est Manassé qui a mis à mort Ésaïe. Pour quelle raison? Parce qu'il avait dit, soi-disant, qu'il avait vu le Seigneur. Alors Manassé, qui était un roi impie, il l'a fait condamner pour cela, selon la tradition, parce qu'il était dit que nul ne pouvait voir Dieu et vivre. Et Ésaïe raconte dans son livre qu'il a vu le Seigneur. Je vis le Seigneur à la mort du roi Ozias. Et on pense que dans le chapitre 11 des Hébreux, il est dit qu'il y en a qui ont été sciés. Et d'après la tradition, d'après le judaïsme, Ésaïe serait mort, martyr, scié, dans un de ces fameux arbres qui serait l'olivier. Et je l'ai vu ça de mes yeux, qu'on peut entrer dans un olivier, un vieil olivier. Mais il faut donc beaucoup d'eau. Et je le disais hier soir, au désert, quand vous voyez un olivier, vous savez qu'il y a de l'eau. Et puis quand vous voyez de l'eau, vous savez qu'il peut y avoir un olivier, qu'il peut y avoir des fruits. C'est comme aussi quand on est au désert, et j'y suis allé souvent, quand vous voyez un oiseau, ça veut dire qu'il y a de l'eau. On a des signalements, mais il faut observer la nature. Vous êtes en train de périr de soif, oh, vous avez la connaissance, comme je le dis souvent, H2O, 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 puis vous avez soif, mais vous avez la formule chimique de l'eau. Elle est vraie, la formule chimique de l'eau. H2O, H2O, puis vous crevez. Avec votre formule, qui est la bonne, ça ne vous donne pas l'eau. C'est pour ça, faites attention de ne pas avoir seulement la formule de la vérité, mais d'avoir l'eau. Tandis que le bédouin qui n'a pas du tout été à l'école, qui n'a pas la formule chimique de l'eau, mais qui sait où elle est, la source, lui vivra sans la connaissance, tandis que nous, avec notre connaissance, nous allons périr. Et c'est ce qu'il y a chez beaucoup de gens qui portent le nom de chrétien. Ils ont la connaissance de la vérité, mais ils n'ont pas l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors avec leur connaissance de la vérité, ils périront, tandis que ceux qui n'ont pas beaucoup de connaissance, mais qui avaient quand même l'amour de la vérité, il y en a plus que vous ne pensez. Eh bien, ils vivent, et ils vivront. Alors ça rétablit bien des choses. Et alors, disons quelques mots sans trop allonger. Les Arabes, eux, ils appellent le palmier dattier l'arbre béni, et même la sœur de l'homme. Ils appellent le palmier dattier la sœur de l'homme, parce que l'homme a besoin d'une sœur. Alors voyons ce qu'il produit. Puisqu'on a vu on a vu déjà ce que produit l'olivier, mais qu'est-ce que produit le palmier dattier? Eh bien, il produit d'abord la nourriture. Une nourriture qui est très abondante. Des dattes, je ne sais pas si vous les aimez. Vous avez déjà mangé des dattes fraîches? C'est tout différent, hein. Il y a des dattes fraîches qu'on a quand on est là, dans les oasis. Et puis, il y a des dattes séchées. Nous, ce qu'on nous envoie, hein, c'est plutôt des dattes séchées, mais c'est quand même bon. Alors, ça donne de la nourriture. Puis avec les noyaux, parce qu'ils ne perdent rien, qu'est-ce qu'on fait avec les noyaux? Ben les noyaux, ça sert de nourriture pour certains animaux qui ont des bonnes dents. Et qui... Qu'est-ce qu'il y a au désert? Les chameaux, ben les chameaux, ils ne sont pas si chameaux que ça, ils mangent les noyaux. Vous mangez la pulpe, et puis le chameau, tout chameau qu'il est, il croque les noyaux. Il mange les noyaux. Alors ça fait une nourriture pour le chameau. Mais en même temps, si vous n'avez pas de chameau, ça peut être brûlé. Les noyaux de dattes servent aussi comme combustible. Mais encore autre chose, quand vous écrasez les noyaux de dattes, ça vous fait de l'encre de Chine. Et ils l'exportent. Hein. Vous voyez qu'ils ne perdent rien. Et c'est ça, nous on perd tout, on jette tout. Hein. Ça va à la poubelle, à la poubelle. Mais eux, ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ce qu'ils ont, avec le même arbre, ils arrivent à faire de l'encre de Chine et à l'exporter grâce au noyau. Après avoir mangé la date, eh bien, ils font encore de l'encre de Chine avec les noyaux. Et puis, avec les feuilles, parce qu'il y a des feuilles, hein, au palmier, ben, avec les feuilles, ils font toute espèce de choses, des sacs. Vous voyez, on nous vend des sacs là-bas. Ils font des corbeilles. Et avec la nervure, ils font des cordes. Et puis, ils font des palissades. Vous voyez, beaucoup de palissades avec des feuilles de palmiers, n'est-ce pas? Les palmiers, les feuilles qui sèchent et qui tombent, on en fait des palissades, même assez solides. Puis, on en fait des paillassons aussi. Et puis, contre le soleil, on en fait des chapeaux, oui, des chapeaux avec des feuilles de palme, et ils vendent ces chapeaux. Puis on en fait aussi du bois de chauffage et même de construction. Puis avec les jeunes pousses, on le disait hier soir, le cœur de palmier, vous avez déjà goûté ça, hein? Bon, c'est comestible. Donc vous voyez, tout ce qu'on peut retirer du palmier, on ne perd absolument rien, et avec le reste on fait du bois de chauffage, et puis même avec la sève du palmier, qu'est-ce qu'on fait? Une boisson, l'arc, une boisson qui est un peu énivrante. Hein. Voilà tout ce qu'on tire du même arbre. Alors maintenant, faites-en l'application pour vous, le jus croîtra comme le palmier. Quelle ressource vous pourriez découvrir en vous-même, non pas parce que ça vient de vous, mais parce que Dieu a fait que vous puissiez produire non seulement du fruit, mais beaucoup de fruits, et du fruit qui demeure et qui serve non seulement à vous, mais à plusieurs, et on dit même qu'il y a aussi des propriétés médicinales dans le palmier. Alors, les Arabes, eux, ils disent que les divers usages du palmier, vous savez combien ils en comptent? Eux, 360. Et ils disent qu'il y a un usage pour chaque jour de l'année. Avec un palmier, eh bien, il y a 360 usages, qu'ils disent. Et une bonne ménagère arabe, eh bien, on prétend qu'elle peut apprêter pour chaque jour du mois un plat de dattes différent. Il y a au moins un plat de dattes qu'on peut faire d'une façon différente. Comme vous pouvez faire des pommes de terre, hein, d'une façon différente, une bonne cuisinière. Eh bien, une cuisinière arabe, elle peut vous servir 30 plats différents de dattes. Et il y a 360 usages pour les dattes. Et combien est-ce qu'un palmier peut produire? On compte 200 à 300 kilos de dattes. Alors vous voyez que c'est la richesse de l'arabe d'avoir un ou deux palmiers. Et c'est justement le symbole de la vitalité. Et la verdure du palmier, elle est permanente, hein? Symbole de vitalité, de beauté. Alors, le juste est comme le palmier, et puis il est dit ensuite qu'il est comme le cèdre. Alors, j'ai dit, le palmier, il supporte donc la chaleur, et puis c'est le roi des grandes plaines, il n'y a rien de plus beau dans le désert que tout à coup l'oasis où vous voyez le palmier, dans sa beauté là. Et ça vous fait lever les yeux, forcément. Mais pour que vous puissiez voir la cime du palmier, il faut qu'il y ait de l'eau en bas. Il a les pieds dans l'eau et alors il s'élève vers le ciel. Mais il est la richesse de ces gens qui vivent dans ces contrées désertiques. Mais le juste n'est pas seulement comme le palmier, plein de sève et verdoyant pour faire connaître le Seigneur, mais il est aussi comme le cèdre du Liban. Alors là, on en parle encore,
le cèdre du Liban, c'est le bois, c'est l'arbre qui résiste au frimas, hein, qui résiste au froid, à la température la plus froide. Il n'y en a plus beaucoup, hélas, au Liban, parce qu'on en a tellement coupé, on a exagéré de ce côté-là, et alors il n'y a plus qu'une certaine réserve de cèdre. Mais le cèdre, alors, c'est l'arbre royal qui résiste à tous les frimas et qui est beau et qui est parfumé. Alors voilà, de nouveau, hein, vous êtes comme un cèdre. Et la beauté du cèdre, elle est décrite spécialement dans le Cantique des Cantiques pour montrer ce qu'un homme doit être, ce qu'un croyant doit être. J'aime beaucoup ce verset. La bien-aimée fait la description de son bien-aimé et elle dit en finale, elle le dépeint, mon bien-aimé est blanc et vermeil au chapitre 5, et puis elle parle de ses jambes, elle parle de tout son corps, et puis finalement elle dit son aspect est comme le Liban distingué comme les cèdres. Et on appelait la forêt du Liban la forêt embaumée, parce que le cèdre a une odeur, une bonne odeur. Et ça, c'est merveilleux. Voilà, il y aurait bien d'autres choses à dire sur le cèdre, mais je voulais seulement ce passage. Le juste, il est comme le palmier, hein, dans une contrée assez désertique, mais où il y a quand même des sources d'eau, et il produit du fruit, son feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit, et vous voyez tout ce qui peut être tiré, maintenant faites-en l'application pour vous-même, du même acte, tout ce que Dieu peut en tirer, eh bien vos vies, qu'est-ce que Dieu peut en tirer? Ma vie, qu'est-ce que Dieu peut en tirer? Au lieu de me plaindre, de dire, oh, je suis misérable, oui, je suis misérable, mais lui est grand, et il peut nous remplir de sa bénédiction. Bien que la grâce de Dieu nous accompagne cet après-midi et ce soir, et que nous puissions encore penser à d'autres arbres, on parlera du figuier, et puis je parlerai aussi des térébintes, et puis de la vigne, puisqu'il est dit que la vigne non plus n'a pas voulu régner sur les arbres. Mais chacun a son don. Et nous verrons tout ce qu'on peut faire aussi avec la vigne. Eh bien, que nous soyons un olivier, que nous soyons aussi un cèdre, que nous soyons aussi semblables à un palmier, et puis un cyprès vert, comme il est dit, un cyprès vert, vous voyez, la beauté aussi du cyprès qui sert à toutes sortes de choses aussi. Avec les cyprès, on faisait des lances, hein, très solides, et puis des mâts de navires, et on pense que c'est avec le cyprès que Noé a construit son arche. Et bien que cette étude sur les arbres nous parle et qu'il nous prépare pour la suite, nous parlerons de la douceur des figues et du figuier, et aussi de tout ce qu'il peut nous apporter. Dieu notre Père, nous